Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre.
La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain.
Abra le corps.
Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette dernière partie de la série Nos corps étrangers d'Abra le corps, qui explore diverses questions et mal-être dans nos rapports au corps qu'a pu exacerber le confinement. Comme prévu, je voudrais cette fois parler de la fameuse quête de soi, qui a souvent tendance, dernièrement, à être réduite au concept de développement personnel. Notion ambiguë, désormais pas mal galvaudée, inspirée de pratiques historiques, géographiques et spirituelles diverses, le développement personnel embrasse aujourd'hui une infinité de pratiques, des mouvements ésotériques aux stratégies de management californienne, de l'humanisme psychologique à la puissance de l'attention, en passant par la méthode Coué, la PNL et autres pensées positives. Ce que regroupe l'ensemble de ces courants peut sembler plus ou moins clair, plus ou moins honnête aussi. Le développement personnel n'est pas sans recouper d'autres notions que nous avons abordées, comme celle de l'alimentation saine, celle du bien-être, ou encore celle du bien-vivre de manière générale. À l'instar des milliers de tips, de recettes, de régimes, de coaching sportif, méditatif, etc., les conseils vidéo et programmes de développement personnel apparus dans les années 1960 en Californie et déjà bien en vogue depuis quelques années, ont semblé eux aussi exploser les compteurs pendant toute la période du confinement. On peut le relier à certaines tentatives de se redonner du sens en cette période de suspension des activités habituelles. De faire du temps de confinement non plus seulement une parenthèse, mais un temps en soi. Or, sous son apparence optimiste, ce même sentiment peut vite se transformer en malaise, voire en gros vecteur d'angoisse et de déprime, dès lors qu'il prend, comme toutes les autres incitations sociales et morales, la forme d'une injonction à laquelle nous nous sentons, une fois de plus, incapables de répondre.
J'ai tout à coup réalisé que j'avais 8 heures supplémentaires. Ma vie avait rallongé d'un tiers. Plus de temps pour penser à Suzy. Il devenait évident qu'il fallait que je rentabilise une partie de mon temps. Je leur donne mes 8 heures supplémentaires.
Bienvenue à bord.
Et eux, ils me donnent de l'argent, comme au distributeur. Je me suis aperçu que tous ceux qui travaillent ont mis au point leur propre méthode. Sharon Pinte, par exemple. Sharon connaît la règle numéro 1. L'ennemi, c'est la pendule. Barry et Matt sont très potes. Entre eux, ils ont trouvé une façon tout à fait différente d'occuper le temps.
Regarde.
Leur truc, c'est de faire n'importe quoi, du moment que c'est pas du travail. Ça faisait 2 semaines que je ne dormais pas. Je passais de l'imaginaire à la réalité. J'imagine que la télécommande de la vie est sur pause.
Peut-être ce sentiment d'urgence à l'activité productive est-il renforcé par une perception générale plutôt négative du fait de rester chez soi, souvent socialement associé à une sorte de paresse, de signe de retrait, d'abrutissement, de mauvaise santé ou simplement d'oisiveté, qui est elle-même loin d'être une notion valorisée dans notre société. Dans son livre « Chez soi », la journaliste Mona Chollet évoquait déjà cette prégnance de plus en plus importante des injonctions sociales à l'urgence, la vitesse et l'hyperactivité d'une société ne jurant que par le mouvement perpétuel et l'arrachement à soi, et contre l'idée du domicile-refuge, de l'abri où il n'est plus permis de perdre son temps. Selon la journaliste, en nous privant de nous attarder chez nous, nous nous privons de réellement habiter ce lieu, c'est-à-dire habiter au sens d'Heidegger, d'y accomplir réellement notre être, d'y exister pleinement. Finalement, le domicile devient un énième produit de consommation. She wants to run from me, so I will set her free. Shine in my eyes, your blinding like you were real. Wasting my own. Alors que le temps en télétravail requiert déjà son lot de productivité, le reste de nos journées qu'on aurait pu envisager à l'aune d'une nouvelle liberté résonne d'une angoisse étrange. Les plus épicuriens et moins tenue par les tâches ménagères, arrive sûrement à en profiter pleinement pour se reposer ou poursuivre des activités avec lesquelles IL se savait déjà les plus à l'aise. Pour d'autres, néanmoins, l'oisiveté ne dure qu'un temps. Dans une société construite autour de la valeur du travail, difficile de ne pas finir par ressentir une forme de culpabilité à ne rien faire. Il y a aussi cette idée que si le confinement est vraiment un temps en soi, et puisqu'on se plaint toujours de ne pas avoir le temps de se poser, il serait de mauvaise foi de procrastiner encore et de ne pas justement saisir cette opportunité pour élaborer de nouveaux projets. Mais quels projets ? Ce terme, qui pourrait recouvrir quantité de choses, se retrouve en fait souvent renvoyé à une conception étroite du temps, qui se doit d'être toujours employé à quelque chose, à faire quelque chose surtout. Être utile, rentabiliser comme on dit. Alors que concevoir ce temps de confinement comme une possibilité de réinvention, de création, pourrait nous stimuler, voilà que le fantasme nous fait un peu trop tourner la tête. On allume son ordi, son tel, on voit sur les réseaux la montagne de gens géniaux qui font de la musique, du sport, qui lancent des campagnes en tout genre. En 2020, le confinement n'a rien d'une coupure monastique. La pression sociale est toujours là. Et dans le flot des informations et de la surreprésentation de soi, on se sent encore une fois assez insignifiant, inutile, incapable, et on n'est pas loin d'aller se recoucher en serrant ce fameux sentiment d'échec, toujours le même, comme un doudou.
Vous avez lu pour nous, Pascaline Sordet, L'éloge de l'oisiveté, un très court livre du philosophe anglais Bertrand Russell. L'éloge de l'oisiveté, ça sent le parfait livre de vacances, vraiment. Hein.
Alors qu'en fait, il parle du travail, de notre obsession du travail, du trop plein de travail. D'ailleurs, Russell commence l'ouvrage comme ça, c'est dans les premières pages, je le cite. « Croire que le travail est une vertu est la cause de grands maux dans le monde moderne et la voie du bonheur passe par une diminution méthodique du travail, une meilleure répartition du travail et donc forcément aussi du loisir. » Alors Russell, c'est pas du tout un marxiste, hein, c'est un aristocrate anglais, philosophe, mais aussi mathématicien et logicien, et donc ses arguments vont être logiques pour défendre cette position.
Alors justement, sur quoi s'appuie-t-il finalement pour affirmer qu'on pourrait très bien travailler moins ? Est-ce qu'il fait des propositions concrètes ?
Alors absolument, sa première proposition, hein, très concrète, c'est qu'on travaille tous 4 heures par jour, donc par personne, et ça suffirait très bien.
Alors, des réflexions qui ont émergé en temps de guerre, on n'est pas loin des réflexions ultramodernes sur l'avenir du travail, alors que déjà à cette époque, les robots commencent à remplacer une partie des postes de travail. Hein.
Absolument, d'où l'intérêt de s'interroger sur notre rapport au travail. Ouais. Avec une centaine d'années d'avance, hein, et c'est effectivement la même problématique, on se demande qu'est-ce qui mérite un salaire, en fait. Est-ce que c'est la productivité dégagée du travail ? Est-ce que c'est l'effort qu'on a investi dans le travail qui mérite un salaire ou la quantité de souffrance qu'elle peut générer. Pour Russell, c'est absurde parce que le loisir est inévitable. Et là, je pense qu'on touche à quelque chose de central, en fait. La question, c'est pas de savoir si c'est bon ou si c'est pas bon le loisir. La question, c'est de savoir comment on le répartit entre les individus dans la population. Et actuellement, on a des gens qui travaillent trop, beaucoup trop, et d'autres qui travaillent pas du tout. Et la conséquence, c'est une forme de misère pour tout le monde, qu'on travaille beaucoup trop ou pas du tout. Et alors que si on allait au-delà de ça pour faire travailler tout le monde de manière égale, et donc tout le monde moins évidemment, puisqu'on va pas travailler au-delà de ce qui est nécessaire, alors on aurait la possibilité de loisir pour tout le monde.
Exactement.
En tout cas, l'oisiveté du titre, c'est pas justement celle des riches qui exploitent, hein, mais une oisiveté productive, culturelle, pour tous et sous toutes ses formes. Hein. Il dit que c'est pas une défense des loisirs pour un télo, mais aussi, par exemple, des danses traditionnelles. Tout.
Mais même si on arrive à se défaire de cette hyperactivité, à prendre ce temps particulier de méditation et de contemplation, il peut sembler qu'il manque encore quelque chose. Persiste l'idée qu'on pourrait toujours faire davantage, avancer concrètement dans notre accomplissement personnel. Car si même en temps de confinement, nous ne parvenons pas à nous trouver, à nous recentrer sur nous-mêmes pour élaborer nos projets propres, comment être sûr de ne pas passer à côté de sa vie ? À ce niveau-là, il peut également être utile de comprendre les ressorts sociaux qui nous poussent à croire toujours en un soi intérieur et profond, qu'on ne trouve pourtant jamais, ou à concevoir sa vie comme une destinée invisible dont il faudrait juste trouver l'entrée. En fait, beaucoup de penseurs ou pratiquants des différentes formes de spiritualité dont prétendent s'inspirer la plupart des techniques de développement personnel actuelles en déplorent un grand appauvrissement et une simplification au moins erronée, au pire absolument contradictoire. Pour Marc Balanfa, professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles, traducteur depuis le sanskrit et spécialiste des philosophies de l'Inde ancienne, la recherche et la consécration d'un moi par le développement personnel est totalement inverse au principe des philosophies et spiritualités indiennes telles qu'on les trouve dans l'hindouisme et le bouddhisme, où justement le moi est ce dont il convient de se détacher, pour mieux permettre au contraire l'expression de son soi. À l'inverse de l'idée, là encore, très occidentale du développement, on n'arrive décidément jamais à se départir de notre obsession du progrès, ces spiritualités parlent d'ailleurs de libération de soi.
De façon assez paradoxale, l'individu en Inde, c'est le renonçant.
Marc Balanfa, invité d'Adèle Van Rett sur les chemins de la philosophie, dans la série Spiritualité es-tu là, philosophie de l'Inde, une pensée venue du ciel, du 29 octobre 2019.
Il faut admettre cette coupure avec la société, avec la famille dont vous avez parlé, effectivement, avec la postérité, pour construire quelque chose comme un individu. Et un individu donc qui se définit par soi. Alors qu'est-ce que c'est qu'un individu qui se définit par soi? Parce qu'ils ont très rapidement compris que l'individu qui se définit par moi, c'est l'individu donc qui va toute sa vie passer dans des conflits, puisque le moi est la source du conflit. Donc plus j'affirme mon moi, je me pose en m'opposant aux autres, je me pose en m'opposant à la société, etc., etc. Donc je passerai ma vie dans la souffrance, dans le conflit. Or, le mumukshu, l'individu des Upanishads, c'est celui qui désire se libérer, et en particulier se libérer de la souffrance. Donc, se libérer de la souffrance, c'est tourner le dos au moi. C'est la première étape. À partir du moment où on a compris que le moi donc est la souffrance, d'où peut venir ce désir de libération? Eh bien, les penseurs des Upanishads disent il vient de soi. Il n'y a que soi qui peut être à l'origine de ce désir de libération. Puisqu'en l'être humain, il n'y a pas 36 possibilités. Si ce n'est pas le moi qui désire se libérer, il faut donc trouver un autre nom. Au départ, c'est un pronom réfléchi, Atman. Donc c'est l'idée que, comme dans la grammaire française, d'une action qui revient vers le sujet. Au lieu d'être en permanence tourné vers le monde, tourné vers les autres, il faut à un moment ou à un autre de sa vie se tourner un peu vers soi. Reconnaître qu'on ne s'oppose pas au monde, qu'il faut cesser de s'opposer à quoi que ce soit, il faut se poser sans s'opposer. Mmh. Et se poser sans s'opposer, c'est être soi, c'est devenir soi, tout simplement.
Dans une autre émission des chemins de la philosophie de la même série dédiée à la spiritualité, Leila Andvar, maître de conférence à l'Institut national des langues et civilisations orientales et chroniqueuse au monde des religions, souligne la même distinction opérée entre le moi et le soi dans le soufisme. Selon cette forme de spiritualité liée à l'islam, la vie humaine n'est alors qu'une transition, une descente sur terre, dont l'existence, si elle est vouée au polissage de l'âme, permet de renouer avec son caractère éminemment divin au moment de sa fin. Le soi n'est alors ni l'individu, tel qu'est, tel qu'on l'entend en Occident, ni une négation de toute individualité. Il dépasse la binarité corps-esprit à laquelle nous sommes habitués, pour renvoyer davantage à un souffle de vie qui nous précède autant qu'il nous survit. Une troisième émission de cette série des chemins de la philosophie, que je vous recommande vivement, montre d'ailleurs au travers des mots de Charles Stepanov, ethnologue, spécialiste de la Sibérie, maître de conférence à l'école pratique des hautes études et membre également du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Donc ce philosophe décrit un détournement occidental de nombreuses pratiques chamaniques pour se focaliser sur la connaissance de potentialités individuelles au détriment d'autres usages visant, dans la tradition chamanique, à une compréhension plus générale et sensible du reste du monde. À titre de réflexion personnelle, au milieu de toutes ces spiritualités qui me rappellent également certaines formes de cosmovision indigène que j'ai pu côtoyer pendant mes voyages et qui recoupent d'ailleurs plusieurs théories de physique quantique, le philosophe occidental que je rapprocherai le plus de cette vision des choses et de la quête de soi serait Spinoza. En effet, selon ce dernier, nous sommes tous et toutes, à l'instar de toutes les choses du monde, des versions d'un même tout. Spinoza s'inscrit dans une vision philosophique qu'on appelle le monisme. Celle-ci s'oppose au dualisme qui a la fâcheuse tendance de toujours tout séparer, la culture et la nature, l'homme et le reste du monde, le corps et l'esprit. Au contraire, pour Spinoza, notre corps et notre esprit sont deux modes appartenant à la même substance que le reste de l'univers, et c'est par ces deux modes-là que nous pouvons reconnecter avec l'énergie première qui nous fait vivre, la source de nos désirs. Le corps nous le permet par les sensations, l'esprit par la réflexion et la connaissance, grosso modo. Bon, la différence étant peut-être que pour des spiritualités comme le bouddhisme, l'hindouisme ou le soufisme, qui englobent elles-mêmes d'innombrables branches et conceptions différentes, la reconnexion avec le soi, et donc avec le reste du monde, passe par quelque chose de bien plus intuitif, un autre état de conscience. Alors que la démarche de la quête de la connaissance prônée par Spinoza reste davantage dans une perspective mentale, intellectuelle, logique, à laquelle l'imagination ferait obstacle, sans compter qu'elle remet encore sur la table un brin de dualisme entre le corps et l'esprit, très caractéristique de la philosophie occidentale.
La philosophie de Spinoza...
Chantal Jacquet, philosophe spécialiste de Spinoza et d'une certaine philosophie du corps et de l'odorat, dans l'émission « Profession philosophe des chemins de la philosophie » du 23 novembre 2018.
Veut finalement réconcilier le corps et l'esprit d'une certaine manière, c'est-à-dire briser ce divorce et ce dualisme, puisque l'esprit et le corps, c'est une seule et même chose. Et ce qui guette l'homme, c'est précisément la mélancolie, c'est-à-dire un état de tristesse généralisée qui frappe aussi bien le corps et l'esprit, qui paralyse. La mélancolie, c'est l'antichambre de la mort, hein, c'est une forme d'impuissance à être. Et pour cela, pour chasser la mélancolie, on dirait peut-être aujourd'hui la dépression, d'une certaine façon, il faut des armes. Et ces armes, pour Spinoza, ne sont pas seulement des armes intellectuelles. Il ne s'agit pas simplement d'élaborer une sagesse qui consisterait à dire que la mélancolie est mauvaise, une forme de prêche contre la mélancolie, en disant qu'il faut l'expulser de soi. Il faut s'en donner les moyens. Et pour s'en donner les moyens, il faut aussi changer l'état du corps. Et ce qui est intéressant chez Spinoza, c'est qu'il prête attention à des choses qui pourraient paraître tout à fait triviales,
là,
tout à fait extérieures.
Le charme des plantes verdoyantes, la parure, la musique, les parfums, etc.
Tout à fait, des choses qui peuvent paraître frivoles et que généralement, d'un point de vue philosophique, on pourrait considérer avec dédain.
Bah, or, comme Coltrane, hein, qui est en train de dire « My favorite things », c'est ça.
Mes choses favorites, mes choses préférées. Et Spinoza montre bien qu'en réalité, puisque l'esprit et le corps, c'est une seule et même chose, plus on diversifie les aptitudes corporelles, eh bien, plus on a de matière à penser. Et c'est la raison pour laquelle il ne valorise pas simplement la musique et le théâtre, qui sont généralement réinvestis par les philosophes comme étant des ressources intellectuelles, mais aussi le charme des plantes vertes, l'usage des parfums. Et évidemment, pour moi, ça m'a aussi donné une puissance de pensée, c'est-à-dire légitimer le fait de s'intéresser aux parfums, hein, comme étant part intégrante de la philosophie, comme étant un acte philosophique par excellence. Donc, dans ce scoli magnifique, eh bien, il s'agit de montrer que les plaisirs peuvent être cultivés, non pas comme des idées fixes. Il ne s'agit pas, par exemple, d'accumuler les richesses ou d'être dans une vie hédoniste négligeant la culture d'autre chose, mais il s'agit de diversifier nos aptitudes. Donc le philosophe doit être ouvert aussi aux plaisirs du monde. Il doit méditer sur ses plaisirs. Ça doit alimenter sa pensée. Et donc, de ce fait, rien de ce qui existe au monde comme plaisir ne lui est étranger.
Je vais commencer par ce qui m'a amené à me tourner vers le développement personnel. Au début, je pense que c'était pour combler un vide intérieur, le sentiment d'être perdu avec la fin de mes études et d'une relation, l'envie de se sentir plus vivante, plus vraie, d'avoir confiance en moi, de ressentir plus profondément les choses. Ensuite, c'était une démarche libératrice pour me libérer du déterminisme social, des normes de genre, de l'ego, de l'attachement à la reconnaissance sociale et du regard des autres. Bref, planer comme un oiseau, prendre de la hauteur et du recul. On reproche souvent au développement personnel d'être passif, égoïste, de se concentrer sur soi-même, ses propres petits problèmes d'occidentaux, et du coup de ne pas agir, d'abandonner la dimension sociale de notre réalité au profit de la dimension psychologique, et d'entretenir l'impression d'un changement alors qu'en réalité on reproduirait le système de manière plus insidieuse. Au contraire, pour moi, se sentir bien avec soi-même, être en paix, c'est la base du changement social. C'est être conscient de plein de choses, ouvrir les yeux sur les violences symboliques, mais savoir prendre du recul pour ne pas les reproduire, pas en être frustré, pas être en colère. Parce que pour moi, on ne peut pas changer les choses en profondeur et sur le long terme si à la base on est empreinte de colère, de sentiments négatifs, de rancœur. Gandhi et Martin Luther King l'avaient bien compris. La colère peut être le déclic pour impulser un mouvement social, on l'a vu avec les Gilets jaunes ou en ce moment avec la mort de George Floyd, mais au final, l'amour reste notre plus grande force, l'amour gagne toujours. Aujourd'hui, la sérénité, le calme, la confiance en soi nous aident à mieux communiquer et nous rendent plus crédibles. En étant plus ancré, plus équilibré, on est aussi à la base de micro-changements et on peut faire sa part, comme dirait Pierre Rabhi, derrière un projet global de société. Cette recherche de bonheur ne remplace pas automatiquement la recherche du savoir et de la pensée critique, de prendre soin des autres et de s'impliquer dans la vie sociale. C'est aussi une ouverture aux autres, à d'autres formes de pensée, c'est remettre en question ses schémas. Et puis pour moi, le développement personnel, c'est pas seulement la recherche du bonheur, mais ça fait aussi intervenir des notions de justice et de solidarité. C'est aussi agir pour se sentir en cohérence avec tout ça, pour changer un peu le monde et faire qu'on se sente plus à notre place et concrétiser par l'action, par nos décisions, cette vision du monde plus tolérante, plus juste, plus peace. Beaucoup de personnes autour de nous ne se sentent plus trop en accord avec la société actuelle de consommation, d'accumulation de profits, de toujours plus. Est-ce que réussir veut encore dire avoir un bon boulot, un bon salaire, une bonne position sociale? Ou bien c'est avoir une vie plus simple où, je cite, « on tente de son mieux pour vivre en lien avec la nature et avec l'autre ». Une vie où on renoue avec des choses simples, avec des bonheurs accessibles, des petites joies, où on apprend à apprécier ce qui nous entoure plutôt qu'à vouloir toujours accumuler, aller plus loin, plus haut, plus vite. C'est une vie où l'on redécouvre le bonheur d'être généreuse, de se tourner vers ceux et celles qui nous entourent. C'est une vie où l'on remplace la performance et l'ambition à tout prix par l'authenticité, essayer d'être soi-même plutôt que de cocher les cases de la réussite sociale. Extrait de La vie simple d'Ismaël Khalifa. La solution pour moi, ça serait un monde où il y aurait plus d'amour, de compréhension, de respect et de partage. Réfléchissez à un moment où vous avez été vraiment heureuse, vous exprimiez alors librement vos sentiments, vos ressentis, vous étiez pleinement vous-même, vous aviez ressenti beaucoup d'amour pour quelqu'un, vous vous sentiez pleinement consciente de votre corps, en faisant du sport par exemple, ou vous avez juste kiffé les joies simples de la vie. Ça paraît simple de dire ça comme ça, mais ça l'est vraiment. C'est juste accepter l'autre comme il est, inconditionnellement, sans porter de jugement, sans faire intervenir nos propres incertitudes, nos propres peurs. C'est ce qu'on appelle la compassion, la bienveillance, se dire que nous faisons tous du mieux que nous pouvons. C'est se dire que là, maintenant, tout va bien, et avoir un regard plus positif sur tout le monde et sur tout ce qui nous arrive. On critique aussi que le développement personnel, c'est le nouveau truc à la mode, de bobo, un néo-bouddhisme, l'appropriation occidentale des cultures orientales. Relisez Platon, Aristote, Épicure, Spinoza, différemment les uns des autres, ils nous parlent finalement tous de bonheur, de besoin de sens, d'attention à autrui, de petites joies qu'on accumule, Spinoza, de s'observer soi-même et de réconciliation intérieure, Pascal. On appelle aujourd'hui développement personnel ce qu'en philosophie on nommait eudémonisme, la rencontre vertueuse entre l'écoute de ses propres désirs, l'aspiration fondamentale à la liberté et la préoccupation de participer au monde en apportant sa pierre au progrès collectif. Regardez aussi les croyances mayas, indiennes, africaines, hindoues. On retrouve partout et en tout temps l'importance du sacré, de la nature, de la sagesse. Enfin, on dit du développement personnel qu'il serait une nouvelle norme, une nouvelle injonction au bonheur, renforçant la société individualiste et néolibérale en auto-responsabilisant et culpabilisant ceux qui ne sont pas heureux et en bonne santé. On assisterait au développement d'une nouvelle industrie du bonheur, rentable, qui derrière de fausses apparences servirait en fait à développer nos soft skills, adaptabilité, positivité, autonomie, pour être toujours plus performant au taf. On peut le voir comme ça, c'est vrai, mais on peut aussi voir toute la liberté que nous offre ce mouvement. Dans sa pratique, que ce soit yoga, méditation, sophrologie, hypnose, aussi dans ses ressentis, ça ne veut pas dire être tout le temps heureux, mais conscient de ses émotions, bonnes ou mauvaises, les accepter, être capable de les exprimer pour s'en libérer. Et on l'a vu dans sa vision du monde, c'est aussi se défaire des chaînes du consumérisme, repenser notre rapport au travail pour revenir à des choses plus simples. Donc liberté, mais aussi accessibilité. On n'est pas obligé d'acheter 20 000 livres de développement personnel, de voir toutes les conférences TED, de suivre des formations et des coachings. Ça peut être gratuit, quand on veut, consacrer le temps qu'on veut et être en groupe ou pas. C'est finalement savoir ce qui est bon pour soi, réécouter son corps et son intuition. Chaque personne a sa propre réalité, sa propre vision du monde, construite par l'extérieur, nos rencontres et expériences, mais aussi par nous-mêmes, nos pratiques et nos désirs. Car pour citer Bouddha, avec nos pensées, nous construisons le monde.
Cuido mis alas porque hay días en que parecen tan frágiles como el papel. Solo el amor consigue hacerlas fuertes. Romperé lo que me ate para volar y recibir la luz del sol cuando sale. Cuando sale. Y soltaré lo que me duele dando voz a todo el miedo. Porque sacarlo de la sombra es la única manera de hacerlo pequeño. Por las que no cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta, aunque la mirada escuece, aunque la mirada escuece. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudra y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Convirtiéndola el motor para el camino que me queda. Las heridas solo sanan con amor y digna rabia. Habrá que abrir con una ganzúa la costumbre de esconder las lágrimas y todo lo que arrastran. Habrá que aprender a soltar a viva voz y con la cara mojada. Ya no quiero andar siempre con mi máscara de hierro. Me enseñaron a llevarla contra todo lo que falta. Pero no me deja verme, no me deja verte. Tantas veces es un nudo que rodea mi garganta. Ya me falta el aire. Hace tiempo que me falta. De una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudre y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Para,
ok, bon, ça c'était pour le côté détour par la spiritualité et la petite sortie de route de l'ethnocentrisme occidental. On le voit, comme la santé, le bien-être, l'alimentation saine ou la beauté, cette quête de soi, qui est le principal objet des techniques de développement personnel, n'est pas à prendre comme une donnée brute. Outre la distinction d'un moi et d'un soi, si on en revient à une conception plus simplifiée de la recherche individuelle, il peut être intéressant de revenir sur l'émergence occidentale, et d'abord donc européenne, de cette conception de soi, comme éminemment lié au corps. Georges Vigarello s'est particulièrement penché sur la question. Il fait remonter les premières perceptions d'une intériorité du corps au XVIIIe siècle, dans un contexte de recul du religieux, où l'individu se retrouve de plus en plus livré à lui-même, mais aussi de progrès de la médecine, qui cesse de concevoir le corps comme dominé par des humeurs pour s'intéresser au système nerveux. Dans une perspective souvent thérapeutique, de nombreux auteurs et philosophes rendent alors compte dans leurs écrits de l'exploration de leurs sensations. Ne se contentant plus de concevoir l'intérieur du corps comme le seul réceptacle de l'âme, ils analysent leurs ressentis comme directement liés au monde extérieur perçu par le corps. Explorant la vitesse, questionnant l'apathie, s'intéressant aux phénomènes de mimétisme des corps, notamment en économie, ces nouvelles préoccupations pour les sensations intérieures infuse la littérature du romantisme du XIXe siècle jusqu'à l'œuvre de Proust au XXe siècle, pénétrant peu à peu l'ensemble de nos représentations sociales, nourrissant un certain souci de soi, une volonté de plaisir, mais aussi une valorisation du contrôle de son corps, ainsi qu'un besoin croissant d'intimité. Ce changement progressif des mentalités des classes supérieures se traduit par une privatisation du temps et de l'espace, marquée par l'émergence de nouvelles pièces, telles que la chambre, les couloirs, le boudoir ou la salle de bain, de nouveaux mobiliers au confort davantage propice à l'affaissement pour la réflexion, de nouvelles pratiques comme l'usage de la drogue ou encore une nouvelle conception de l'hygiène et de la beauté, pour lesquelles tant l'apparence que les sensations du corps deviennent de plus en plus centrales. Renforcée par les courants de la psychiatrie au XIXe siècle, puis par la psychanalyse au milieu du XXe, soulignée par la philosophie phénoménologique selon laquelle notre conception du monde est inséparable de nos perceptions corporelles, le corps prend ainsi une part de plus en plus structurante dans la conception de nous-mêmes au sein du monde, devenant le point de départ de l'ensemble de nos choix, de nos pratiques, que ce soit en termes de mode, de confort, de beauté, etc. Et ceci tant pour le regard extérieur que pour un ressenti intérieur. Néanmoins, l'idée selon laquelle cette intériorité ressentie serait pleinement constitutive de notre identité est particulièrement renforcée dans la seconde moitié du XXe siècle, en même temps que l'idéologie du bien-être. Comme nous l'avons vu, sur fond de massification culturelle, il s'agit d'une période marquée par une valorisation de l'individualité. Outre l'émergence de la doctrine néolibérale réaffirmant la nécessité de poursuivre notre intérêt économique en consommant des biens qui nous feront advenir en tant qu'individus, les mouvements sociaux viennent ébranler les modèles dominants de représentation pour revendiquer une incroyable diversité d'identités. Or Norbert Elias et Michel Foucault, nous l'avons vu, soulignaient que se penser en tant qu'individu, c'est aussi faire sienne les normes sociales. D'après le sociologue et psychologue français Alain Ehrenberg, les normes sociales, se faisant de moins en moins surplombantes, mais au contraire de plus en plus diffuses, nous sommes encouragés à développer une singularité individuelle. Or, le fait d'intérioriser la norme sociale fait que nous ne la percevons plus nécessairement comme telle. Ayant le sentiment d'obéir à nos propres normes, le sentiment d'échec et l'ensemble des difficultés et des conflits sociaux que nous continuons de rencontrer sont alors perçus comme le produit d'un problème personnel. Pour reprendre les exemples précédents, si nous ne nous trouvons pas beaux, ou belles, ou pas assez minces, c'est de notre faute. On se dit que c'est nous qui n'avons pas réussi à nous conformer à nos propres attentes, que la société n'y est pour rien, puisqu'après tout, il n'y a pas de pouvoir vertical qui nous oblige physiquement à bouffer du chocolat, ni même à maigrir absolument. Ça ne peut donc qu'être un problème de nous-mêmes avec nous-mêmes. Lorsque ces conflits internes deviennent trop nombreux, on en vient alors jusqu'à se considérer soi-même bancal psychologiquement, alimentant le cercle infernal de la dévalorisation. Pour de nombreux psychologues et sociologues, cela expliquerait l'explosion du nombre de dépressions, véritable maladie de l'époque. Le système de santé évolue d'ailleurs lui aussi vers une individualisation et une responsabilisation des maladies psychiques. Alors que les années 30 avait vu l'émergence d'un État-providence qui, conscient des inégalités sociétales, se sentait responsable de ses malades, l'idéologie de la réussite individuelle poussée à son paroxysme par les politiques néolibérales des années 1980 renvoie de nouveau la thérapie psychologique dans le camp de l'individu, face à sa propre autonomie, à sa propre responsabilité. Une fois de plus, on se prend de plein fouet ce double discours social hypocrite. Dans ce paradis de la valeur travail, d'une part, l'idéal méritocratique et le mythe de l'égalité des chances nous élèvent dans l'idée que nous sommes tous et toutes appelés à devenir quelqu'un ou quelqu'une. D'autre part, des études supérieures de plus en plus sélectes, un marché du travail complètement bouché et discriminant, permettent rarement de s'épanouir dans la voie de son choix. Néanmoins, tout est fait pour que nous intériorisons l'échec. Encore une fois, le problème ne serait pas le manque de postes ni les discriminations structurelles envers l'ensemble des minorités, mais bien notre manque de volonté, puisqu'après tout, c'est bien connu, il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver un travail. On comprend alors mieux pourquoi on se sent si fortement incité à devoir travailler sur soi, à construire son être intérieur, quitte d'ailleurs à évacuer totalement la notion du corps, comme si celui-ci, ses formes, son assignation sexuelle, sa couleur de peau, ses défauts, ses handicaps, ne jouaient aucun rôle dans la fameuse intégration sociale. Par une réalité glacée, et lui a droit à des études poussées. Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers? Pourquoi j'ai dû stopper les cours? Pourquoi lui n'avait pas de frère à nourrir? Pourquoi j'ai dealé chaque jour? Pourquoi comme moi je plonge, je lui passe sa thèse? Pourquoi les cages d'acier, les cages dorées agissent à leur aise? Son astre
brillé plus que le mien sous la grande toile. Pourquoi ne suis-je pas né sous la même étoile?
La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
De la même manière, plus on est appelé à se connaître soi-même, plus on semble perdu. Cela n'est pas étranger à un phénomène de délégation, plus ou moins conscient de nos corps et de la gestion de notre santé, aux mains d'institutions extérieures. Ce phénomène s'est amorcé dès la Renaissance, par la confiscation progressive des discours et des pratiques scientifiques et médicales par un corps de médecins de plus en plus spécialisé et éminemment masculin. Plus récemment, ces mêmes médecins ont tendance à être eux-mêmes de plus en plus supplantés par certaines industries, tels que les géants de l'intelligence artificielle d'une part et les lobbies du développement personnel et autres programmes capitalistes de coaching de vie d'autre part. Dans le premier cas, le sociologue David Le Breton et l'écrivain Éric Sadin dans l'émission « Entendez-vous l'écho, valeur du corps », quatrième épisode « Les fantasmes du numérique sur France Culture » rappellent que les géants du numérique n'ont aucune légitimité médicale mais s'allient avec les industries pharmaceutiques pour nous vendre le fantasme de l'humain augmenté par tout un tas d'applications. Ces dernières prétendent ainsi pouvoir analyser nos comportements et répondre à nos besoins en les traitant comme de simples informations similaires à n'importe quelle donnée informatique.
Il faut peut-être expliquer, David Le Breton, que l'intelligence artificielle part d'un postulat, celui que le cerveau humain et la machine fonctionnent de la même façon. C'est l'idée qu'il y aurait une continuité entre le corps et la technologie.
Oui, c'est l'idée que le cerveau est une sorte de logiciel, que le cerveau contient d'innombrables informations. Donc c'est l'émergence avec l'intelligence artificielle, mais avant avec la cybernétique, de ce paradigme informationnel qui est au cœur de tout ce qui se joue aujourd'hui, hein, c'est-à-dire la transformation du monde en information pure, donc en information qui peut être également comparée, qui peut être dupliquée, etc. Et puis qui aboutit à ces transformations sociales profondes que nous vivons aujourd'hui, puis également à des représentations sociales qui transforment profondément notre image de l'humain. Parce que pour moi, évidemment, nous ne vivons pas en tant qu'humanité dans un univers d'information, mais dans un univers de sens. Et là, il y a évidemment un malentendu absolument fondamental. On pourrait dire que l'information, c'est la technicisation du sens. L'information, c'est donc une donnée brute, brutale également, reproductible, etc. Le sens, au contraire, ce sont toutes les significations, toutes les valeurs que nous projetons en permanence sur le monde, qui sont liées toujours à un contexte, qui sont liées à notre histoire de vie, qui sont liées à notre inventivité. Donc le sens inclut l'ambivalence, inclut l'infinie complexité du monde et notre capacité de rebond. La technique, évidemment, l'intelligence artificielle, à mes yeux, en tous les cas, n'a pas cette finesse, en quelque sorte, dans son appréhension du monde, et elle développe davantage un fantasme de toute puissance, finalement. Un fantasme de vérité. Même derrière un sourire, vous pouvez avoir d'innombrables significations extrêmement différentes, derrière des larmes également. Alors comment peut-on formater de cette manière finalement l'infinie complexité de la société, des sociétés humaines, sans compter d'ailleurs les différences sociales, culturelles, etc. Parce que là, ces logiciels sont fondés sur des représentations typiquement occidentales et nous disent encore moins des populations amérindiennes ou aborigènes.
Ainsi, la conséquence en est une progressive dislocation de la diversité des sens auxquels pourraient renvoyer nos comportements et une aliénation de l'individu de plus en plus incité à s'en remettre à des objets extérieurs. Cette pratique de la recherche de la donnée brute et de l'information immédiate prend alors le pas sur l'écoute de nos sensations, de nos émotions, et nous incite moins à chercher des réponses par le dialogue, la comparaison de nos expériences avec celles des autres, de nos proches notamment. Un échange pourtant fondamental dans la construction de soi, comme le souligne Boris Cyrulnik, ici invité des Chemins de la philosophie, encore une fois, par Adèle Van Retz.
On est biologiquement, on est un carrefour de pression écologique. Psychologiquement, on est un carrefour de récit. C'est-à-dire que je suis un autre, ça vous dit quelque chose. C'est-à-dire que je suis sculpté par vos sourires, par vos froncements de sourcils, par vos mots. Vous me sculptez.
Et réciproquement.
Et réciproquement. C'est-à-dire, alors on peut commencer par la neurologie, un cerveau seul ne fonctionne pas. Il s'éteint. Pour activer un cerveau, il faut un autre cerveau. Et Rizzolatti, que j'ai eu la chance de rencontrer et de côtoyer,
Rizzolatti,
c'est un professeur de neuroimagerie de Parme, en Italie, et il montre comment un cerveau de mammifère, humain ou non humain, un cerveau de mammifère se met à fonctionner s'il y a un autre mammifère de son espèce ou d'une autre espèce. Et à ce moment-là, on voit que le cerveau s'entraîne, se développe, se circuite, c'est-à-dire qu'un cerveau seul ne fonctionne pas.
Comme si Google, Doctissimo et les nouvelles applis de santé pouvaient désormais tout nous dire de nos maux, de nos troubles psychiques, psychologiques, relationnels. Les GPS nous orientent, les montres enregistrent nos rythmes cardiaques, des appareils en tout genre mesurent les calories alimentaires, d'autres applis détectent notre stress ou n'importe quelle carence alimentaire. On nous analyse à l'embauche ou bien pendant notre sommeil. Nous sommes devenus des corps évaluables, ce qui simplifie grandement notre gestion par les nouvelles politiques du management basées sur la rentabilité et que j'ai déjà évoquées dans l'un des podcasts précédents. Mais alors que faire ? Comment se départir de toutes ces normes sociales, alimentaires, esthétiques, des recommandations des applis en tout genre et ces galvaudisations générales des concepts de bien-être et de développement personnel ? Est-il tout simplement possible de dégager une forme propre d'être soi, de prendre soin de soi, sans tomber dans un contrôle fric de sa santé ? Je ne prétends pas avoir de solution miracle et m'inventer une nouvelle coach perso. Moi la première, je suis en constante lutte, en tentative permanente de comprendre mon intériorité, ses mécanismes, de renouer avec le silence de mes organes et en particulier de ce fichu estomac. Mon but par ces podcasts est simplement d'aider à déconstruire tous ces rapports à notre corps que nous avons tendance à prendre pour argent comptant. Je pense en effet que prendre conscience des relations de pouvoir qui sous-tendent nos rapports au corps devrait être accessible à tout le monde. D'une part parce que cela aide peut-être à se sentir un peu moins seul et responsable de ses mal-être. D'autre part car cela permet de prendre un peu de distance. Une première étape essentielle pour mieux se réapproprier nos corps en choisissant quelles normes on souhaite garder, quelles normes on souhaite rejeter et quelles normes on souhaite enfin transformer. Et tout cela en gardant à l'esprit qu'il ne peut pas exister de choix qui ne soit pas au moins en partie socialement et culturellement construit. Mais là n'est pas le problème. Qui peut prétendre de toute façon décrypter l'ensemble des relations qui structurent tel ou tel goût esthétique, telle ou telle préférence sexuelle ou affective, telle ou telle sensibilité ? Dans son entretien avec Jennifer Pajami, Sophie Cheval soulignait qu'il ne servait à rien de chercher à se départir de toutes les normes esthétiques. Tout d'abord car la beauté en tant qu'émotion est un besoin du cerveau humain. Activant une zone du cortex orbitofrontal spécifique, elle libère, à l'instar d'autres activités comme l'alimentation ou la sexualité pour certaines personnes, pas toutes, de la dopamine, c'est-à-dire l'hormone responsable du bien-être. D'ailleurs, heureusement que nous ne vivons pas tous nos accessoires esthétiques comme quelque chose d'imposé. Preuve en est nos bijoux préférés, nos tatous fétiches, toutes ces petites choses auxquelles nous portons une valeur affective et que nous sommes fiers d'arborer, car nous les estimons constitutifs de notre identité. Cette identité que l'on se choisit, que l'on construit tout au long de notre vie. Pourquoi diable alors se priver de ce qui nous fait du bien ? L'idéal, ce serait juste de garder les comportements et les pratiques qui vraiment nous font du bien, et de pouvoir virer tous les autres impératifs parasites. À ce niveau-là, il n'est pas non plus question de se départir de l'ensemble des normes esthétiques dans lesquelles nous baignons depuis l'enfance. En fait, cela est tout bonnement impossible. Le cerveau humain n'est pas capable d'effacer ces informations.
Et puis notre fonctionnement psychologique, lui, s'il y a une chose qu'il ne sait pas faire, c'est supprimer des informations, supprimer des expériences une fois qu'on les a reçues ou qu'on les a vécues. Ça, on ne sait pas faire. Il n'y a pas de touche supre chez l'être humain. Donc on ne peut pas enlever des préoccupations pour la minceur, on ne peut pas enlever le fait que on aura toujours cette préoccupation pour notre apparence physique, ça c'est des expériences qu'on a depuis des temps immémoriaux. La seule chose qu'on peut faire, c'est ajouter de la nouveauté. Et c'est la même chose dans l'espace social. On ne pourra jamais supprimer les représentations stéréotypées de la beauté, mais on peut ajouter de la diversité. Et même chose avec nos expériences psychologiques, on peut ajouter de l'ouverture, ajouter de la souplesse.
Ce que dit Sophie Cheval ici, dans le podcast Miroir Miroir, pour les normes de beauté, me semble valable pour l'ensemble des normes sociales qui encadrent notre comportement. De même que nous avons besoin de beauté, nous avons besoin de nous sentir bien dans nos goûts, dans nos loisirs, dans nos activités. S'il n'existe pas de touche permettant de supprimer ces rapports, la plasticité de notre cerveau permet en revanche que nous ajoutions tout un tas de nouveaux référents culturels et que nous transformions ceux déjà présents. C'est là le propre subversif de tous les mouvements de contre-culture. Ne doutons pas de notre capacité à nous réapproprier les injonctions pour en faire des créations. Arborons nos porte-bonheur. Écoutons la musique que nous aimons. Coiffons nos cheveux et pourquoi pas nos poils comme nous les aimons. Faisons des guirlandes de nos soutifs. Imaginons notre super tatouage de post-confinement. Laissons libre cours à l'impulsion des mouvements de notre corps, de notre voix si ces derniers ont envie d'exploser dans l'espace. Une fois de plus, ces réflexions invitent peut-être à davantage d'écoute et de questionnement de nos sensations, à la réconciliation avec une certaine intuition.
Alors, la définition de la résilience, elle est bébête, tellement elle est évidente. Hein.
Boris Cyrulnik, sur les chemins de la philosophie, le 24 juin 2019.
On est traumatisé, un grand malheur nous arrive, on ne comprend pas. On est hébété. Et le mot hébété, c'est le mot qui est confirmé aujourd'hui par la neuroimagerie. Quand on a un trop grand malheur, le cerveau ne peut pas traiter les informations, il est gris, il ne fonctionne plus. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on reste prisonnier du malheur, ça arrive, c'est le syndrome psychotraumatique, ou bien on se débat pour se remettre à vivre tant bien que mal. C'est la définition de la résilience. Il n'y a pas plus bébête que cette définition. Alors, ce qui est difficile, en revanche, c'est de découvrir les facteurs qui permettent la reprise d'un nouveau développement. C'est la résilience. Et alors là, il y a des facteurs biologiques, des facteurs neurologiques, des facteurs affectifs, des facteurs psychologiques et des facteurs socioculturels. Donc on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout apprendre. Et là, il faut se mettre en équipe et s'associer pour essayer de répondre à quelques-unes de ces phrases. Alors le concept est rentré étonnamment bien dans la culture, peut-être un peu trop vite, avec des contresens, mais c'est pareil pour toutes les découvertes scientifiques.
Enfin, à celles et ceux qui crient à tort et à travers que se trouver soi-même, que s'épanouir par des loisirs créatifs et autres est le seul privilège des classes moyennes et supérieures, je ne suis pas d'accord. Dire que les classes populaires sont trop plongées dans la nécessité quotidienne pour avoir le temps de rêver et de se poser des questions de bien-être et d'accomplissement de soi, c'est reproduire des généralités et entretenir une perception misérabiliste, donc classiste, en parlant encore une fois au nom des principaux concernés.
Lyrique, ça pèse, j'rappe les oiseaux stèse. Fais-toi plaisir, écoute ça avec ta délice. Ce matin, je suis bien dans ma peau, j'ai la pêche, telle cette femme qui dame des parts de tarte par dizaine. Te dis pas frappé par un maléfice. Recommence ta vie à zéro quand je la redémarre à moins 10. J'suis né blasé sans un sou, puis brassé, me suis retrouvé sans issue. J'suis entré en collision avec mes obstacles. Tourne le pire à la dérision, l'offre en spectacle. Me dois de tout tuer pour ceux qui n'ont pas le choix. Ma chanson va pas sauver le monde, tant pis pour cette fois. Si j'avais entendu les profs, je serais pas le type dont on étudie l'écriture. Laisse les rires faire mon truc, me suis fixé ce but. Si j'arrive à mi-chemin, je ferai date comme ce tigre tué par un caniche nain. Tu connaîtras jamais la fin de l'histoire en faisant demi-tour à 2 minutes de la victoire. On peut viser, tomber ta femme et son vison. Mais qui peut se vanter d'avoir touché l'horizon? J'irai plus loin que l'horizon, c'est bien mieux que le bout de son nez. Tous les murs qui nous bloquent frisons. Avance, laisse les claques sonner. Viens la vitesse de mon son frison. J'irai au moins plus loin que l'horizon, c'est bien mieux que le bout de son nez. Tous les murs qui nous bloquent frisons. Avance, laisse les claques sonner. Viens la vitesse de mon son frison. Je me sens encore ceux sur qui nul ne miserait. Autant de chapitres que de poils possède un bison. J'enchaîne les brochettes de problèmes, hyper vitesse, kiff, crochet. Le revers de la médaille, c'est mon emblème. Tu déconnes avec tes tonnes de projets, ils vont encore s'entasser avec ceux de l'année prochaine. Viens, j'ai fait le plein de patience, y'a assez d'essence pour rouler jusqu'à l'horizon. Qui même me suivent amène les cuivres, les guitares, du pain et de l'huile d'olive. Le seul raccourci m'impose, ne suis pas les panneaux, rien indique la bonne destination. Action, laisse-moi kiffer ma passion, m'échapper car à chaque page, des marionnettes rêvent qu'on m'isole. Plus on est de fou, mieux on évite la camisole. Je te fais plein de fins de pas de ceux qui démissionnent le plan. Je trouve en bas à gauche, juste après de Rémissol. J'irai plus loin que l'horizon, c'est bien mieux que le bout de son nez. Tous les murs qui nous bloquent frisons. Avance, laisse les claques sonner. Viens la vitesse de mon son frison.
j'irai au moins plus loin que l'horizon. C'est bien mieux que le bout de son nez. Tous les murs qui nous bloquent frisons. Avance, laisse les claques sonner. Viens la vitesse de mon son frison.
S'il y a bien un espace propice à la réappropriation de ses envies et de sa créativité, c'est d'ailleurs bien l'espace domestique. Comme le souligne le parolier René Boer, bien que l'espace domestique reflète et soit soumis aux contraintes propres à la position occupée par ses habitants au sein de l'espace social, c'est aussi le lieu à l'abri des regards et donc le plus susceptible d'ouvrir la voie à l'expression d'une identité propre, à la reconquête d'un espace de liberté. Dans son livre « Chez soi », Mona Chollet partage également l'idée de notre habitat comme lieu le plus propice à l'introspection et à la construction de soi. D'une part pour l'isolement, l'abri qu'il offre en retrait du reste du monde social, d'autre part parce qu'il est peut-être le seul lieu que l'on peut, un tant soit peu, s'approprier, essayer de modeler à son image et selon ses envies, selon des degrés variables bien sûr, et du type de logement, n'allez peut-être pas péter les cloisons si vous n'êtes pas vraiment propriétaire par exemple. À mes yeux, on pourrait dire que ce n'est pas la quête de soi qui est un problème de riche, mais plutôt le fait de le formaliser ainsi. Plus généralement, confinement ou pas, culture, création et développement de soi ne sont pas l'objet des uniques classes privilégiées. Leur privilège réside seulement dans la légitimité qu'elles s'octroient à les nommer en tant que telles. Or ce n'est pas parce qu'on ne le verbalise pas comme tel, qu'on ne paye pas et qu'on ne cherche même pas de thérapie ou de programme en ligne, que nous ne ressentons pas, n'exprimons pas le besoin de nous évader, que ce soit aussi bien par le corps que par l'esprit. Sans doute ne s'agit-il pas des mêmes activités sportives, artistiques, intellectuelles, des mêmes livres, des mêmes projets. Pour autant, qui décide de ce qui est ou non artistique et culturel, de ce qui est ou non création, invention et plus généralement développement de soi? Si nous acceptons l'idée qu'il n'existe pas un soi-même, immuable et caché, qui attend quelque part que nous venions le trouver, peut-être serons-nous plus disposés à nous ouvrir à de nouvelles pratiques, à ne pas entendre par les grands mots de création et projet, des produits, des choses toujours arrêtées, presque forcément tangibles, de ne pas concevoir toujours la production de beauté comme l'apanage d'une catégorie restreinte et sélective de grands génies, seuls dotés de talent et d'une forme d'inspiration transcendantale. Il ne s'agit pas de dire que toutes les pratiques ont la même valeur, mais plutôt de rappeler que compte tenu de leur caractère indubitablement subjectif, j'attends toujours qu'on me présente le fameux individu objectivement neutre et omniscient, détenteuriste de la vérité. Il semble donc assez vain d'essayer d'établir des valeurs absolues. Question à 10 000 euros. Combien de ceux que nous considérons aujourd'hui comme des œuvres d'art l'étaient-elles déjà à l'époque de leur création? Et qui en a fait des œuvres? Si nous parvenons à démythifier l'idée de création et de créateur autant que celle du temps, à nous départir de cette idée des grands moments de l'histoire, que ce soit de l'histoire avec un grand H, comme de nos petites histoires individuelles. Si donc on parvenait à se libérer un peu du fardeau des grandes destinées censées faire advenir de grandes personnes, pour plutôt concevoir l'ensemble de nos activités et le temps de confinement comme des parties d'un même mouvement continu, processuel, qui fait partie de notre vie au même titre que toutes les autres périodes, sans qu'il n'y ait nécessairement à en chercher une plus ou moins grande signification. Si on parvenait à arrêter de nous prendre la tête sur la nécessité de produire quelque chose de toujours tangible, concret, matériel, qui a surtout vocation à légitimer notre existence par la reconnaissance d'autrui, alors, peut-être, est-ce que nous commencerions à nous sentir un peu plus apaisés, plus libres de faire ce que bon nous chante et quand ça nous chante.
Le bruit de la pluie sur le bitume en panne, des essuie-glaces, mon pare-brise pleure, mon humeur durcit la glace. Ceux qui disent le temps c'est de l'argent sont dans l'erreur. Si on met les zéros de côté, pas les heures. Je commande un café avant le texte pondu. Demande mon dû, car j'ai posé avant que le sucre ait fondu. Souvent en avance où le temps m'importe, mon pote. Si tu ne peux être à l'heure, faut que tu te téléportes. Quand on se rate, y a pas de prochainement. La vie est courte et la mort a tout le temps. Né le matin, majeur à midi, vieux des 20h. L'histoire oublie les héros, pas les vainqueurs. 365 jours puis 700 le temps commence à manquer, tu l'espires. vérité dépend de celui qui écoute, peu importe ce qu'on dit, le temps révèle tout. Le temps fait du bien à l'amour, contrairement à ce qu'on pense. Les regrets c'est quand on se roule concrètement. Le mauvais temps n'est pas le froid ou le gris, c'est ce qu'on s'était juré, qu'à force on oublie quand j'arrive pas à écrire. Le mauvais temps, celui qui te ronge, la migraine quand tu t'interroges. Les rêves s'éloignent, tu cours à leur poursuite. En vieillissant, de moins en moins de plumes poursuivre. La durée de ma chanson est décroissante. Désolé, je ne sais compter que jusqu'à 60. 365 jours, puis 700 le temps. Comment ça manquait, tu l'espionnes. Commence à compter, tu te questionnes. Vivre, c'est déchiffrer des lettres, des chutes et des litres, des chèques et des contrats. Tout ce que tu pourras et lorsque tu pourras plus, tout va ralentir. Signe que l'avenir devient repentir. Chaque marche passée, l'escalier s'effondre. Alors je saute en chantant chaque seconde. La vie est un beau train avec de sales wagons. Et la chance vagabonde, j'attends pas qu'on m'approuve. Je suis un grand de ce monde, compose avec la lumière en tant qu'homme de l'ombre.
Pour conclure cette petite série d'épisodes, je vous souhaite à vous tous les bras cassés du bonheur, les tarabiscotés de la vie, les complexés, les torturés, les dépressifs, les angoissés, les un peu trop cérébraux et j'en passe. Vous tous qui, comme moi, souffrez à des degrés variables, de ne pas trop vous comprendre, de ne pas vous trouver, d'avoir le sentiment de ne pas matcher avec le monde extérieur, de ne pas savoir ce qu'est le sens de la vie, de votre vie, ou de ne pas croire qu'il y en ait un tout simplement. Vous tous que le confinement a sûrement pas mal chamboulé sur beaucoup beaucoup de plans. Bon courage. J'espère que petit à petit, en persévérant dans nos êtres, en essayant de faire la sourde oreille aux sirènes et aux diktats extérieurs, en rencontrant des gens chouettes, en vivant des moments forts, on trouvera de nouvelles clés pour se sentir mieux dans ces fichus corps, dans ces foutues constructions de nous-mêmes, et on kiffera un peu nos vies quand même. Prochaine thématique au programme, les représentations de la maternité. Il va me falloir sûrement un peu plus de temps de préparation, car je vais avoir moins de disponibilité dans les jours à venir. N'hésitez pas donc à me faire parvenir vos contributions, vos témoignages, si le sujet vous inspire. Merci à tous, celles qui me suivent et contribuent à leur échelle, en croyant à ce projet que je chéris vraiment. En attendant, haut les cœurs, on s'accroche et on se retrouve très vite pour plein de nouveaux épisodes d'Abra le corps.
Sientas dolor, sigues continuando y subiendo, continuando. Aunque tengas temor, sigues continuando y cruzando, continuando. Pues la vida siempre te dará un camino único a ti. Con tiempo verás, aunque tengas preguntas, sigues continuando y buscando, continuando. Aunque baje la sombra, sigues continuando, navegando, continuando. Algunas veces te hará un capitán, navegarás en tu soledad, hacia tu tierra, hacia tu tierra. Aunque dañan tus sueños, sigues continuando y sangrando, continuando. Hasta los días tranquilos, sigues continuando, explorando,
La vida es un mar tan bravo. Abraza los momentos lindos. Oh,
aunque sientas dolor,
la suerte
sigues continuando.
Es caprichosa
y subiendo.
Quieta y digna,
continuando.
Atraviesa,
aunque tengas temor,
la fortuna.
Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre.
La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain.
Abra le corps.